les quelques textes de référence. Pour démarrer, je voudrais qu'on suive dans un premier temps le commentaire de Rashi au début de la paracha de Noar. Au tout début de la paracha de Noar, le pasouk, le Chumash nous dit « Elé toldot Noar, voici la postérité, la descendance de Noar ». Et tout de suite après, on nous dit « Noar fut un homme juste, intègre dans sa génération, il marchait avec Hachem ». C'est le début de la paracha de Noar. Donc le pasouk nous dit « Elé toldot Noar », on va traduire pour l'instant les engendrements de Noar, bien que normalement la traduction habituelle soit la descendance. Mais justement, en fait, on s'arrête tout de suite là et on se pose tout de suite une question. Pourquoi le pasouk enchaîne tout de suite sur le fait que Noar était un homme juste et entier par rapport à sa génération, et seulement après vient nous parler de sa descendance, de ses toldot. Pourquoi, quand on nous dit les toldot Noar, on ne nous dit pas tout de suite quels sont les engendrements ou la descendance de Noar? Et pourquoi on fait une espèce de parenthèse tout de suite pour nous dire « Noar fut un homme juste, intègre dans sa génération, il marchait avec Hachem ». Donc c'est la première question qui va intéresser Rashi. C'est pourquoi, après avoir annoncé les toldot de Noar, on commence par faire son éloge, dire qu'il était un homme intègre, juste, avant de nous parler de citer sa descendance. Et Rashi va faire deux réponses par rapport à ça. Et on va se concentrer sur la première de ces deux réponses pour expliquer pourquoi, le pourquoi de cette parenthèse tout de suite. Rashi nous rapporte le principe de Zecher Tzadik Livracha. En français, on dit le souvenir, la mémoire du juste est une bénédiction, est une bracha. Ça se trouve dans Michelet, dans les proverbes. La mémoire du juste est une bénédiction. Et donc, Rashi nous explique en fait pourquoi le pasouk est construit comme ça. La mention d'un tzadik est accompagnée tout de suite d'une bracha, ici au sens d'un éloge de Noar, de la tzidkouk, de la droiture de Noar. Donc c'est pour nous dire tout le bien que nous inspire la mention de Noar, qu'on nous dit tout de suite qu'il est un tzadik, avant véritablement de nous intéresser à ses toldot, à sa descendance. Et pour justifier encore plus ce principe, Rashi ramène tout de suite un deuxième exemple de ce principe de Zecher Tzadik Livracha, qu'il faut faire l'éloge d'un tzadik lorsqu'on mentionne son nom, et c'est encore plus frappant. C'est à propos d'Avraham, dans le pasouk Vayera, je crois que vous avez aussi la référence. Cette fois-ci, il s'agit aussi d'un contexte de destruction, on va dire, massive, puisqu'on nous parlait de Noar juste avant de nous annoncer le Maboul. Là, on nous parle d'Avraham juste avant de la destruction de la ville de Sodome. Mais cette fois-ci, c'est Hachem qui dit « Est-ce que je vais cacher quelque chose à Avraham alors que d'Avraham va naître un peuple grand et puissant et qui sera source de bénédiction pour toute l'humanité ?» Et donc, Rashi ramène cet exemple d'Avraham pour justifier le principe de Zecher Tzadik Livracha, comme pour Noar, en disant le Midrash applique ici ce principe, le souvenir du juste est une bénédiction, et même Hachem, dès qu'il nomme Avraham, il le bénit. Hachem parle d'Avraham en disant, est-ce que je vais cacher quelque chose à Avraham? Et au lieu de nous livrer tout de suite ce qu'il entend révéler à Avraham, ben, on fait encore une parenthèse pour dire, d'Avraham va naître un peuple grand et puissant, qui sera source de bénédiction pour toute l'humanité. Donc c'est le même principe, le souvenir du juste est une bénédiction, on le nomme un juste, un tzadik, on le bénit. Donc on a par deux fois le principe de Zecher Tzadik Livracha qui est mentionné par Rashi, une fois à propos de Noar et une fois à propos d'Avraham. Et quand on regarde le pasouk, enfin les commentaires de Rashi d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a une différence dans la bracha. C'est-à-dire que Noar, la bracha, c'est comme une parenthèse pour faire l'éloge de Noar sur Tzitzit, alors qu'on nous annonce « Elé toldot Noar ». La bracha ne porte pas sur les générations, les toldot de Noar. Elle porte sur le comportement de Noar, sur sa droiture. Et on remarque tout de suite que par rapport à Avraham, on ne nous dit pas qu'Avraham était un tzadik, mais on nous dit que d'Avraham va naître un peuple grand et puissant qui sera source de bénédiction pour toute l'humanité, que d'Abraham, la bénédiction va aller à tous les autres peuples. Et c'est un petit peu étonnant, puisqu'on sait que Noir va être le deuxième père de l'humanité, puisque l'humanité va être détruite et que c'est Noir qui va repeupler l'humanité. Donc on se demande pourquoi la bracha ne porte pas sur les toldot de Noir, mais sur sa tzidkout. Et à l'inverse, pourquoi elle porte sur la descendance d'Abraham, on va dire comme ça. Donc c'est un premier point de comparaison entre Abraham et Noar. On a le même principe de Zechar Tzadik Livracha qui s'applique aux deux, mais il y a une différence dans la bracha, dans l'application de ce principe. Pour Noar, elle ne porte pas sur les toldot, elle porte sur son comportement. Pour Abraham, elle va porter sur ses engendrements, c'est-à-dire le fait que par lui, tous les peuples de la terre vont avoir une bracha, vont avoir une bénédiction. Et Rashi, dans la suite de ses commentaires, va pointer un autre point de comparaison entre Noar et Abraham. C'est dans le même pasouk, à la fin. Le pasouk dit « Et Elohim itraler Noar » ce qui veut dire « Noar marchait avec Hachem ». Et Rashi remarque tout de suite que par rapport à Abraham, on nous dit « Elohim asher itralarti lefanav » le Elohim, le Dieu devant lequel j'ai marché. C'est dans Hayesara. Et donc, on nous dit que d'Abraham, il marchait devant Hachem, et que Noar marchait avec Hachem. Et donc, Rashi remarque cette différence. Et il explique dans un premier temps qu'en disant, Noar avait besoin d'un appui pour le soutenir, d'un soutien pour se tenir et pour rester un tzaddik, alors qu'a priori, Abraham était assez fort et marcher de lui-même, se renforcer et avancer tout seul dans sa justice. Et là aussi, c'est assez étonnant, c'est un deuxième point de comparaison. On a vu le premier point de comparaison, c'était par rapport à la bracha, qui ne s'applique pas sur les toldot de Noar, mais qui s'applique sur les toldot d'Abraham. Et là, maintenant, on nous dit, Noar, il marchait avec Hachem, et Abraham, il marchait devant Hachem. Alors, quel est pour essayer de comprendre quel est le sens de cette distinction. On a trouvé un Maharal dans son commentaire sur Rashi le Gourarié qui nous propose la lecture suivante. Justement, le soutien dont Noir avait besoin, c'était le Et Elohim, c'est-à-dire le fait que Hachem soit avec lui en permanence. C'est parce qu'Hachem a accepté d'accompagner Noir tout au long de sa vie que Noir ne s'est pas fourvoyé, n'est pas tombé, n'a pas chuté, est resté un tzaddik. Alors que pour Abraham, on sait qu'Abraham a été beaucoup éprouvé. Il y a eu notamment 10 épreuves d'Abraham. Le Midrash Rabbah compare d'ailleurs les 10 épreuves d'Abraham à une femme qui part 10 fois, donne un enfant à son mari et se fait congédier. Ensuite, il la reprend, elle lui redonne un enfant, elle se refait congédier. Au bout de la 10e fois, elle n'en peut plus. Elle réclame une promesse de son mari de ne plus être congédiée. Et le Midrash ramène cette histoire par rapport à Abraham en disant « Abraham aurait fait promettre ainsi à Hachem de ne plus l'éprouver après les 10 épreuves qu'il a subies. » Et donc, le Maharal dit que c'est de ça qu'il s'agit. Abraham a été mis à l'épreuve et dans ces épreuves, il s'est retrouvé seul par opposition à Noar qui, lui, n'a pas été mis à l'épreuve de la sorte et qui est resté tout le temps accompagné par Hachem. On peut même remarquer que les épreuves d'Abraham étaient une forme de coupure. C'est-à-dire que si on regarde la plupart des épreuves d'Abraham, il a dû quitter sa famille, son père, il a dû chasser son fils, le fils qu'il a eu avec Agar, il a dû se circoncire, il a dû ensuite, Hachem lui a demandé de tuer son fils, Yitzhak. Donc, il y a une forme de solitude dans les épreuves d'Abraham par rapport à la présence d'Hachem. Et le Maharal nous propose cette première lecture qui est de dire que Noar avait la présence d'Hachem constante à ses côtés. C'est pour ça qu'il est resté tzaddik, alors qu'Abraham, lui, dans ses épreuves, s'est retrouvé seul. Mais si on va un tout petit peu plus loin, on pourrait se dire aussi que ce qui importe, c'est pas tellement que Abraham marchait devant Hachem et que Noar marchait avec Hachem, c'est le fait que, comme on l'a dit, Abraham n'avait pas la présence d'Hachem à ses côtés, alors que Noar avait la présence d'Hachem à ses côtés constamment. Peu importe après tout que l'un était devant et l'autre à côté, ce qui est plus discriminant, on va dire, pour parler comme ça, ça serait que, en poursuivant l'analyse du Maharal, ça serait que Noar était avec Hachem et que Avram n'avait pas la présence d'Hachem à ses côtés dans ses épreuves, bien sûr. Mais là, on se demande pourquoi on nous dit que Noar marchait avec Hachem. Si c'était cette interprétation qu'on pourrait essayer de retenir, on aurait dû peut-être nous dire « et Hachem fut avec Noar ». Ça veut dire que ça symbolise simplement l'idée que la présence d'Hachem était auprès de Noar. Mais quand le pasouk nous dit « Noar marchait avec Hachem », dans le fait de marcher, il y a bien une démarche, donc quelque chose de proactif, enfin d'actif, une démarche personnelle de la part de Noar. Donc, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi évident que ça. Le fait que Noar marchait avec Hachem, ça nous entraîne à penser que Noar n'était pas simplement accompagné par la présence d'Hachem, mais qu'il avait lui-même une démarche. Alors, pour rester dans le sujet, y a-t-il un seul chemin de vie pour tous ? L'idée de marcher dans les voies d'Hachem, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ça nous fait penser à une première mitzvah, qui est la mitzvah qui est rapportée dans la Gemara Sota, la mitzvah de Acharei Hachem Telechu, c'est-à-dire d'imiter, de suivre le comportement d'Hachem, le comportement divin. Je vous invite à regarder le texte de l'Agmara, de l'Agmara Sota, c'est dans 14a, qui nous dit « Mahou Malbish Arumim » de la même manière que lui, que Hachem, habille les démunis, toi aussi, Afata, tu devras habiller les démunis. » Alors l'Agmara, dans ce principe d'imiter le comportement d'Hachem, va rentrer un petit peu dans les détails, en nous disant comme Hachem a fait pour Adam Arishon et sa femme des vêtements, et il leur a donné ses vêtements, toi aussi tu devras habiller les démunis. Comme Akadosh Baruch Hu a été Biker Cholim, de la même manière qu'il visite les malades, comme on nous rapporte dans cette Gemara que Hachem est apparu à Avraham dans les plaines de Mamré au troisième jour de sa circoncision, Afata, toi aussi tu devras visiter les malades. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu et Menachem Avelim, qu'il console les endeuillés, comme il est dit, c'était après la mort d'Abraham, donc Hachem est venu pour bénir son fils Yitzhak, Afata, toi aussi, tu devras consoler les endeuillés. Et enfin, comme Akadosh Baruch Hu kover metim, de la même façon qu'il enterre les morts, comme on nous rapporte qu'il a enterré Moshe Rabbeinu dans la vallée, Afata, toi aussi, tu dois enterrer les morts. Donc la Gemara nous propose un certain nombre de comportements d'Hachem qu'il s'agirait d'une certaine façon d'imiter ou de copier, avec des exemples assez précis: habiller les démunis, visiter les malades, consoler les endeuillés et enterrer les morts. Donc ce qu'on pourrait déjà essayer d'en retenir, c'est que marcher avec Hachem, ça revient pour l'essentiel à imiter un comportement d'Hachem qui nous est donné en exemple, à imiter la perception qu'on en a de ce comportement. Mais quand même, on reste avec notre question pour l'instant. Dans les voies d'Hachem, c'est avec Hachem, devant Hachem, derrière Hachem. La Gemara va ramener plusieurs formules. « Acharei Hachem Telechu », ça veut dire « après Hachem, vous marcherez ». De Noar, on nous a dit « et à Elohim, itraler Noar, Noar marcher avec Hachem ». Et d'Avraham, on nous a dit « A Elohim, Asher, Itralarti, Lefanav, le Elohim, le Dieu devant lequel j'ai marché. » Donc il reste quand même, de façon assez curieuse, des différences dans le fait de suivre, d'imiter, de marcher dans le comportement d'Hachem. D'imiter le comportement d'Hachem. Donc juste pour fixer un petit peu les choses, dans cette première Gemara, la Gemara Sota, on a un comportement d'imitation. Donc on pourrait dire, pour essayer de se repositionner par rapport à derrière, à côté, devant, qu'on est dans une position derrière Hachem. On a un comportement qui nous a donné en exemple, assez précis, on se doit de l'imiter. Alors maintenant, on va essayer d'aller plus loin et on a trouvé une autre Gemara qui interprète d'une autre façon un autre verset qui a priori rien à voir, mais qui peut nous permettre de trouver du sens à ce que la Torah nous dit sur Noar. C'est la Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat 133b qui nous ramène donc qui interprète le verset qui fait partie de la Shirat Hayam qui est dans Shemot au moment de la traversée de la mer Rouge des Bnei Israël. Les Bnei Israël ont dit Ze Keli Ve'anevehu, traduction, alors la traduction est très problématique, on va en parler tout de suite. Ze Keli Ve'anevehu, pour l'instant, si on prend la traduction du rabbinat, c'est mon Dieu et je lui rendrai hommage. Dans le Moum, j'ai même lu, je ne sais pas si c'est Rashi qui dit ça, c'est lui-même en personne, en parlant d'Hachem, qui leur est apparu et ils l'ont montré du doigt. Dans l'expression Ze Keli Ve'anevehu, il y a vraiment l'idée de pointer du doigt Hachem, c'est mon Dieu et je lui rendrai hommage. Alors, ce n'est pas une traduction qui est évidente, mais maintenant, qu'est-ce que va en faire la Gemara? Donc, la Gemara Shabbat nous dit, Tania, on a enseigné dans une braïta, Ze Keli Ve'anevehu, Itna Elefanav Be'mitzvot, comment comprendre ça? C'est déjà. La Gemara va dire « C'est mon Dieu, Zekeli Ve'anevehu », elle va traduire « C'est mon Dieu et je vais l'embellir ». Et donc, en jouant sur les mots, « Itna Elefanav Be'mitzvot », c'est pris dans le sens de « Noy », de « Beau ». Donc, « C'est mon Dieu et je vais l'embellir ». Alors, avant même de se poser la question, de se dire « Qu'est-ce que ça veut dire « embellir Hachem », la Gemara, bien sûr, continue avec un léger glissement et elle nous dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Embellis-toi devant lui, devant Hachem, par les mitzvot. Hachem t'a donné un certain nombre de mitzvot. Embellir Hachem, ça veut dire embellis-toi, embellis les mitzvot qu'Hachem t'a donné. Embellis-toi devant lui, par les mitzvot qu'Hachem t'a donné. Et là encore, la Gemara va nous décliner un certain nombre d'exemples. Aselevanav, Tzitzit, Nae, Lulav, etc. Une belle souka, fais devant lui une belle souka, fais devant lui de beaux tzitzit, un beau loulav, un beau chauffard, etc. Alors on a quand même deux idées qui sont très dérangeantes, même si on traduit comme la Gemara nous demande de traduire. C'est l'idée déjà qu'on puisse embellir Hachem, Chas v'Shalom, c'est une idée un peu dérangeante, ça pourrait presque vouloir dire une conception un peu idolâtre, on ne peut pas embellir Hachem, ça ne veut rien dire. Et même quand on suit la Gemara et qu'on continue son raisonnement et qu'on traduit qu'est-ce que ça veut dire embellir Hachem, ça veut dire embellir les mitzvot, on ne sort pas totalement non plus d'un questionnement assez étrange. Qu'est-ce que ça veut dire embellir les mitzvot? C'est la parole d'Hachem. Hachem nous a donné une parole qui est divine, qui est parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire embellir la parole d'Hachem? Embellir les mitzvot. Déjà, contente-toi de les faire et puis sois content. Et en plus, on sait, quand on continue notre raisonnement par rapport aux mitzvot, que non seulement les mitzvot émanent d'Hachem, donc sont parfaites, c'est la parole d'Hachem, mais en plus qu'on a un interdit dans la Torah de modifier les mitzvot, que ce soit de diminuer ou d'en rajouter, Bal Tosif et Bal Tigra. Donc c'est très encadré, la pratique des mitzvot est dans la Torah très encadrée, on ne peut rien enlever, on ne peut rien rajouter. Donc, par exemple, on a quelqu'un qui voudrait embellir la mitzvah de manger de la matzah à Pessar. Pessar est fini, il se dit, le lendemain de Pessar, au titre de la mitzvah, je vais continuer à manger de la matzah. C'est strictement interdit. Ou bien, pendant Sukkot, il veut faire un super, super, super beau loulav, il va rajouter une cinquième espèce. C'est interdit. Au bouquet du loulav, on n'en rajoute rien. Bal Tosif, Bal Tigra, tu rajoutes rien, tu diminues rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire embellir les mitzvot? Qu'est-ce que ça veut dire? Fais une belle souka, fais un beau chauffard. Bon, on ne peut pas traduire ça comme aujourd'hui en disant achète le plus beau étrog, le plus cher, le plus. Ça ne veut rien dire. Alors, est-ce qu'on peut esquisser un début de réponse? En disant que embellir les mitzvot, peut-être que ça voudrait dire ajouter de l'humain. Puisqu'on a dit que les mitzvot, c'est la parole d'Hachem, à partir du moment où je m'en empare, je rajoute de l'humain, ma compréhension de la mitzvah. Donc, une vision humaine des mitzvot qui sont divines. Alors, ça voudrait dire presque, ça aussi c'est une idée un petit peu dérangeante, un côté un peu rajouté de l'esthétisme, de l'esthétique dans les mitzvot. Je mets de l'humain, donc je mets ma compréhension dans les mitzvot qui sont une émanation d'Hachem, donc je rajoute de l'humain. Je les transforme pas, mais je les embellis de cette façon-là. Et peut-être que c'est ça qu'ont voulu dire les Bnei Israël au moment de la Shiratayam en disant Zekeli ve'anevehu. Peut-être que c'était pour une façon d'appréhender ce qui n'est pas appréhendable. Ils ont vu un miracle extraordinaire. Il fallait bien à un moment donné avoir une réaction. Donc le fait de l'appréhender, ben, c'est forcément le circonscrire. Donc c'est dire ce miracle extraordinaire, c'est Hachem qui l'a fait. C'est mon Dieu qui a fait ce miracle-là. C'est peut-être une façon simplement humaine d'appréhender le miracle, de le désigner en tout cas. Comme si, en fait, puisqu'il y a un passage qui nous dit que la dernière des servantes, au moment de la traversée de la mer Rouge, elle a vu plus que le plus grand des prophètes, qu'Ézéchiel, je crois. Bon. Donc, il y avait une proximité extraordinaire, on va dire, entre les Bnei Israël et Hachem à ce moment-là. Et peut-être que cette proximité les a amenés à une clairvoyance, cette proximité les a induits à une certaine perception qui est délimitée. Donc, comme on disait tout à l'heure, limiter ce qui est illimité, c'est une attitude tellement humaine. Donc, pour appréhender ça, c'est limiter l'illimité, c'est un besoin humain. C'est peut-être ça que veut dire la Gemara. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est qu'on voit qu'il y a une permission qui va devenir un chiyuv, une obligation de mettre de l'humain, de l'esthétique, de mettre en tout cas de l'humain dans le divin. Zekeli ve'anevehu, pour rester dans notre sujet par rapport à imiter le comportement d'Hachem, ça va être de mettre de l'humain dans les mitzvot d'Hachem, de mettre de l'humain dans le divin. Et ça pourrait presque être, pour qualifier cette démarche, une démarche extérieure. Je m'investis, moi en tant qu'humain, une démarche extérieure d'embellir les mitzvot qu'Hachem m'a donné. Donc je m'investis, mais dans les mitzvot. Les mitzvot qui sont extérieurs à moi. Et donc ce principe, ce chiyuv de mettre de l'humain dans le divin, on va le retrouver par la suite. Puisque la Gemara tout de suite va nous proposer une deuxième lecture de ce verset. Donc la première traduction que la Gemara nous a proposée de Zekeli ve'anevehu, c'est embellir les mitzvot qu'Hachem nous a donné. Comment on embellit les mitzvot? En se les appropriant, en mettant de l'humain dans le divin. Maintenant, elle va nous proposer une autre lecture, une deuxième lecture de ce verset. C'est Abba Shaoul qui dit « Eve domelo, cherche à lui ressembler. Maou hanun verachum afata, eye hanun verachum. » De la même façon qu'Hachem est rempli de pitié et de miséricorde, toi aussi, sois rempli de pitié et de miséricorde. Donc, cherche à lui ressembler. Et Rashi nous dévoile la clé de lecture de cette deuxième interprétation. C'est quand on se centre sur Ve'anevehu, on peut le lire en deux parties, comme Ani Ve'u, moi et lui, et c'est Atzmo Kemoto, je vais me rendre pareil que lui. Donc là aussi, c'est un peu étrange. Mais c'est une autre façon de dire Zekeli ve'anevehu. Je vais embellir Hachem, je vais me rendre comme lui. Je vais me rapprocher de lui. Je vais me rendre pareil que lui. Et là, par rapport à la première lecture de la Gemara, on a tout de suite une différence, c'est que on a dit tout à l'heure que la première lecture qui était d'embellir les mitzvot qu'Hachem nous a donné, c'est une démarche extérieure. J'embellis les mitzvot, que ce soit un étrog, une souka, un loulav, les tefilines, etc., les titites, j'embellis une mitzvah, c'est extérieur. Là, on a l'impression que c'est une démarche plus intérieure, quand on dit, quand on se centre sur le terme Véanévéou, on a l'impression que c'est un travail sur soi. Je vais me rendre comme lui. Lui, Hachem est rempli de pitié et de miséricorde. Moi aussi, je vais me remplir de pitié et de miséricorde. Donc cette fois-ci, c'est un travail intérieur. C'est un travail, on va dire, sur des midotes intérieures. Alors, déjà, si on veut essayer un tout petit peu de schématiser, on pourrait dire que dans la première lecture de imiter le comportement d'Hachem que nous proposait la Gemara Sota, on avait un comportement d'Hachem, plusieurs comportements d'Hachem qui étaient décrits de façon assez précise, et on se contentait de les imiter. Enfin, on se contentait. On essaye d'imiter le comportement d'Hachem. Visiter les malades, consoler les endeuillés, etc. Alors que là, on a l'impression que quand on nous dit, dans la deuxième lecture de la Gemara, « Zekeli ve'anevehu, ve'anevehu, rends-toi pareil qu'Hachem », c'est comme si on conceptualisait, non pas une attitude, mais un comportement d'Hachem. Il est rempli de chesed, il a créé le monde avec chesed, et donc nous aussi, on doit se remplir de chesed, on doit avoir et cultiver du chesed. Donc cette fois-ci, on n'est plus dans l'imitation d'un comportement très précis qui est de dire Avraham Avinu au moment où il a fait sa circoncision, le troisième jour, Hachem est venu pour le visiter, mais on ne parle pas d'un cas précis, on parle d'un attribut, et on dit, tu dois copier cet attribut-là. Donc on est dans une deuxième étape, je ne sais pas si je suis clair, de conceptualisation du chesed, de la miséricorde d'Hachem. Et cette fois-ci, si on veut essayer de comprendre ça, ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'un exemple précis. Dans le premier cas, on avait des comportements et on nous enjoint d'imiter ces comportements. Là, on nous enjoint à imiter un attribut. Donc, on n'est pas obligé de suivre à la lettre le détail de ce que nous dit la Gemara. Ça veut dire, si je dis à quelqu'un, sois plein de miséricorde, sois plein de pitié, s'il est intelligent, il va interpréter ça tout au long de sa journée. Et s'il voit quelqu'un, pas simplement qui est endeuillé ou qui est nu ou qui est machin, il va avoir un attribut de chesed, de miséricorde. Donc, c'est quand même un deuxième niveau de perception de conceptualisation des mitzvot, de la façon d'imiter Hachem. Et donc, cette deuxième lecture de la Gemara, ça voudrait presque dire qu'on construit un modèle. Qu'on ne prend pas un comportement précis d'Hachem, mais que le chesed et d'autres attributs, on va les conceptualiser et on va se les approprier. Donc on va construire un modèle basé sur l'étude du comportement, le limoud du comportement divin, des comportements divins. Et c'est peut-être ça que les Bnei Israël ont vécu au moment de la Shirat Hayam. C'est ce niveau peut-être plus élevé d'élaboration, puisque pour décrire un comportement de chesed, un comportement divin de Rachum Veranoun, il faut déjà le conceptualiser. Et donc là, je vais essayer d'être clair avec toutes ces notions. Donc je reprends, la Gemara Sota nous proposait Maoul Malbish Arumim, donc on était dans l'imitation de comportement d'Hachem, on était derrière Hachem. Là, d'une certaine façon, avec la conceptualisation, on est à côté. Pour reprendre la terminologie par rapport à Noar et Avraham, là, on est à côté d'Hachem. On conceptualise un attribut d'Hachem, que ce soit en disant « je vais embellir les mitzvot » ou « je vais me rapprocher de lui », je mets de l'humain dans le divin et je conceptualise le comportement d'Hachem. Donc c'est un autre niveau et je suis non pas derrière simplement à imiter un modèle, mais je me construis moi-même un modèle qui va me permettre d'avoir une attitude proche du divin, entre guillemets, presque tout seul. Je me construis un modèle, je suis pratiquement autonome. On me demande de faire du chesed, je peux le faire tout seul. Je vois des exemples dans ma journée et je peux pratiquer le chesed sans forcément coller aux exemples que la Gemara me donne. Donc je deviens presque autonome par rapport à la première phase qui est je suis derrière Hachem et j'imite simplement un comportement d'Hachem. Et d'une certaine façon, les deux lectures de la Gemara Shabbat, on peut les rejoindre en reprenant l'autorisation qui nous a été donnée, l'obligation, le chiyuv, de mettre de l'humain dans le divin. Puisqu'on a vu que la première lecture, c'était embellit, on ne peut pas embellir Hachem, alors on embellit, on s'embellit devant Hachem par les mitzvot, donc on met de l'humain dans les mitzvot divines. Et dans la deuxième lecture, on conceptualise un attribut d'Hachem. Donc là aussi, d'une certaine façon, on met de l'humain dans l'idée qu'on se fait du comportement d'Hachem. Donc c'est une façon de rapporter ces deux lectures à un seul principe qui est le chiouv, de mettre de l'humain dans le divin. Comme si d'une certaine façon, et ce n'est pas ce sens-là auquel je vais m'arrêter, mais quand on est derrière Hachem, qu'on imite le comportement d'Hachem, on est presque un peu loin. On a la tête en haut, on est loin. Alors que le fait d'avoir le chiouv, d'embellir les mitzvot ou de se rendre pareil à Hachem, ça induit une proximité et on met de l'humain, on se rapproche du comportement d'Hachem. Mais il y a quand même un problème qu'on avait soulevé en parlant de comment embellir Hachem, même comment embellir la parole d'Hachem. Il y a quand même, je fais attention aux termes que je vais employer, il y a quand même une certaine pureté dans le premier niveau qui est de se dire, je suis derrière Hachem, j'imite le comportement d'Hachem. Je garde d'une certaine façon toute la pureté au commandement, à la parole et au comportement d'Hachem. Alors que si je me rapproche, si je mets de l'humain, donc de l'esthétique dedans, d'une certaine façon, je fais descendre. Je fais descendre ça à mon niveau, à mon petit niveau humain. Donc, dans l'imitation pure et dure, on a l'avantage de conserver toute la hauteur au comportement d'Hachem, alors qu'il y a une certaine, il n'y a pas une certaine trivialité, mais il y a une certaine limitation, on l'a dit, dans l'attitude des Bnei Israël, qui au moment le plus extraordinaire du miracle de la Shiratayam, on dit Zekeli ve'anevehu. C'était une façon de vouloir limiter l'illimité, donc de circonscrire Hachem. Donc là, on descend, on fait descendre la parole d'Hachem, le comportement divin, à notre portée, à portée de conceptualisation humaine. Et donc, il y a quand même, pas un problème, mais il y a un respect de la hauteur des divrei Torah et des mitzvot et de la parole d'Hachem dans le fait d'être derrière Hachem, d'imiter simplement le comportement d'Hachem. Et il y a une plus grande proximité, avec tous les problèmes que ça peut induire, dans le fait d'être à côté d'Hachem et de s'emparer de la parole d'Hachem et de l'embellir ou de se rendre pareil à ses attributs. Et j'insiste un tout petit peu sur ce point, parce que c'est un petit peu central par rapport à notre sujet. Y a-t-il un seul chemin de vie pour tous? Et c'est le sens de la réflexion de Rashi. Donc on va essayer de conceptualiser en se disant, quand on passe de derrière à côté, puis quand on passe de à côté d'Hachem à devant, donc il y a une progression, mais cette progression s'accompagne tout de suite d'une descente, entre guillemets, des divrei Torah d'Hachem vers l'homme. Donc c'est, on va dire, inhérent à la condition de l'homme. On est ce qu'on est, et Hachem est... Voilà, donc... Il ne faut pas y voir une régression, mais une progression. Mais c'est important quand même de savoir qu'il y a une rupture dans le fait d'être, de se dire je suis derrière Hachem, j'imite un comportement d'Hachem avec une certaine éloignement, un certain respect par rapport à la hauteur de cette parole. Et le fait de se dire je me positionne à côté d'Hachem, je m'empare de la parole d'Hachem, j'embellis les mitzvot d'Hachem, je me rends pareil à ses attributs. Bon, il y a une progression qui en même temps est un rapprochement de la parole d'Hachem vers l'homme. Alors on a vu comment on pouvait être derrière Hachem, on a vu comment on pouvait être à côté d'Hachem, c'est le stade de Noar. Alors être à côté et passer devant, il n'y a qu'un pas, j'allais dire. Donc si on est dans une dynamique, on va dire, d'avancée, on se dit passer devant Hachem, ça sera encore mieux, quelque part, entre guillemets. Je suis à côté de lui, je conceptualise ses attributs. J'embellis les mitzvot qu'Hachem m'a donné, je construis un modèle de chesed, de rahmanout, etc. Alors pourquoi pas passer devant? Ça serait une étude encore plus approfondie, une conceptualisation encore plus poussée, comme si je pouvais me rendre autonome par rapport à la parole d'Hachem. Mais le problème de cette image, si on suit cette image de dire on est derrière, on est à côté ou on est devant Hachem, c'est que c'est facile de suivre Hachem, de suivre quelqu'un quand on est derrière. C'est encore facile de le suivre quand on est à côté, puisqu'on a une proximité visuelle. Quand on est derrière, ça devient problématique. Quand on est devant, pardon, ça devient problématique. Quand on est devant, ça devient problématique. Sinon, on est constamment obligé de se retourner pour voir si Hachem nous suit bien, si on est dans la bonne direction. Donc si, s'il faut se retourner sans arrêt pour savoir si on a la bonne direction, autant rester derrière, c'est plus pratique. Donc si on devance, si on est devant, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc on voit bien qu'il y a aussi, d'une certaine façon, une coupure un peu radicale entre le fait de dire on est à côté d'Hachem et le fait de dire on passe devant. C'est une coupure qu'on peut retrouver quand on dit, par exemple, on étudie avec son maître un texte, donc on fait la Mishnah, on fait les commentaires, les Tosfot, on colle au raisonnement de la Gemara, et puis à un moment donné, on peut très bien se dire je propose une interprétation. C'est mon interprétation, mais après tout, ça vaut ce que ça vaut, mais je peux le proposer. Donc là, on est dans le concept de chidouche, c'est-à-dire d'innovation. Je propose une idée, ce que je pense, j'innove, je propose un sens. Et d'une certaine façon, c'est peut-être une première illustration de l'idée de se dire on est devant Hachem, c'est devancer la parole d'Hachem, c'est-à-dire être volé de ses propres ailes, proposer une interprétation, un sens, innover. Mais c'est clair que là, on est un peu dans une situation un peu vertigineuse, puisque on est devant la parole d'Hachem, ça ne veut rien dire. On n'a pas de modèle, on innove, mais qui on est pour innover sur des paroles divines. Donc, bien sûr, on est dans le chidouche, on a étudié notre passage, mais si on avance plus loin, on dépasse le modèle, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc il y a un écart entre le fait de conceptualiser des attributs d'Hachem, d'embellir des mitzvot, et le fait de se dire j'innove, quelque part je passe devant. Donc on a vu qu'il y avait une certaine authenticité dans la démarche de celui qui est derrière, qui reste derrière, qui ne cherche pas à doubler, qui reste derrière, qui imite le comportement d'Hachem. Il y a une certaine authenticité qui garde toute sa hauteur au Divrei Torah. Le fait de se mettre à côté, il y a quelque part une appropriation humaine des concepts de la Torah. Et le fait de passer devant, on est loin de l'attitude de l'imitateur. Là, on veut innover. Alors, pour ceux qui ont pu être là, c'était l'intervention qui avait été faite par Eric Smilevitch. Il avait souligné notamment un point en parlant d'Avraham Avinu, quand Rashi nous fait remarquer que c'est lui-même qui dit qu'il marchait devant Hachem dans le Passouk. Et donc, qu'est-ce que son comportement avait de divin? Quand le Midrash Rabbah, en parlant d'Avraham Avinu qui marche devant Hachem, nous dit que Avraham Avinu se situait avant Matan Torah, avant le don de la Torah. Donc il a appris la Torah par lui-même. Déjà, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ensuite, on nous dit ses reins, centre du conseil, se sont fait ses maîtres, nous dit le Midrash. Et donc, il a appris toute la Torah de lui-même. Mais là, on se pose la question, on rejoint nos questions précédentes. Il est devant Hachem, mais c'est d'une production humaine. Il n'y a pas eu Matan Torah. Donc là, il est en train de nous dire qu'il sort la Torah quelque part de lui-même. Donc c'est une Torah qui est production humaine, mais il n'y a plus d'aspect divin dans la Torah à ce moment-là. Mais peut-être que c'était ce qui était déjà contenu dans le Véanévéou, Zekeli Véanévéou. Si on peut donc se placer d'une certaine façon à côté d'Hachem, alors on peut passer devant. Si on peut mettre de l'esthétique dans les mitzvot d'Hachem, alors on peut aussi se dire qu'on a une inspiration divine et on fait une production sous inspiration divine. Et qui aurait peut-être, c'est un point d'interrogation, bien évidemment, une certaine valeur, une valeur de Torah. Est-ce qu'un homme peut faire une production de divrei Torah qui ont une valeur de Torah? On sait que oui, mais c'est quelque part un problème. Donc c'est juste des réflexions pour souligner que le chiyuv de mettre de l'humain dans le divin, ça va très loin. Et donc, peut-être que de ce chiyuv-là, de cette permission qui nous a été faite, et de cette obligation de mettre de l'humain dans le divin, peut-être que c'est de là qu'on tire l'autorisation d'innover, de s'inspirer du comportement d'Hachem, d'une conceptualisation des attributs d'Hachem, pour innover nous-mêmes. Alors, bien évidemment, il y a un cadre, qui est le cadre de la halakha. Donc on doit scrupuleusement, bien évidemment, respecter le cadre du tzivouï, de l'ordre, de la halakha, mais à partir de cette injonction, de ce chiyuv, de mettre de l'humain dans le divin, on peut se dire qu'on a une autorisation aussi à proposer un chidouche, à innover. Et c'est une idée pour faire le lien avec le premier séminaire qui avait été organisé à l'ADE sur le travail. C'est une idée qui avait été développée par Rav Gronstein par rapport au Midot d'Hachem. Quand on dit que l'homme a été créé à l'image d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé à l'image d'Hachem? Peut-être que ça veut dire que comme Hachem est le créateur par excellence, on a nous aussi une obligation d'être créatif, à défaut d'être créateur et de faire des golems, en tout cas d'être créatif, d'innover dans les divrei Torah. Et c'est une idée qui est comparable à la Gemara Shabbat, à la deuxième lecture qu'on a faite, de se rapprocher des attributs d'Hachem, de la même façon qu'on doit se remplir de pitié et de miséricorde, de chesed, on peut aussi se dire qu'on a un des attributs d'Hachem, qui est le créateur par excellence, à imiter. Donc on se doit nous aussi d'être dans ce chiyou, d'imiter Hachem en étant créatif, en étant créateur d'une parole de Torah. Donc on voit bien que malgré un cadre très strict, il y a une place pour une création éminemment personnelle dans la Torah. Alors si on essaie de revenir maintenant... Donc juste pour reprendre un petit peu, parce que je ne sais pas si c'est compliqué ou pas, mais juste pour reprendre les concepts de façon générale, la Gemara Sota nous disait « Acharei Hachem Telechou » imite le comportement d'Hachem, on est derrière Hachem. La Gemara Shabbat nous disait « Keli Ve'aneveu » embellit les mitzvot d'Hachem ou rapproche-toi des attributs d'Hachem et donc mets de l'humain dans le divin, conceptualise, et là on est à côté d'Hachem, le stade de Noar. Et en allant plus loin, on a vu qu'on pouvait être comme Avraham Avinu et avoir une production sous inspiration divine, une production humaine. Et là, si on fait un arrêt pour revenir sur la première comparaison entre Avraham et Noar, entre Noam et Avraham que fait Rashi dans Elé Toldot Noar, on s'est posé une première question qui était de dire, c'est bizarre, alors que Noar va être le deuxième père de l'humanité, la bracha, Zecher Tzadik Livracha, elle ne porte pas sur ses toldotes, elle porte sur son comportement à lui, le fait qu'il soit resté un homme juste. Alors que pour Avraham Avinu, alors que ce n'est pas lui qui a... La bracha, elle porte sur sa descendance. Alors, à la lumière de tout ce qu'on a vu, peut-être que on peut expliquer ce rachis d'une autre façon. Comment expliquer que la bracha, elle porte sur les toldot d'Avraham, le fait que d'Avraham seront bénis tous les peuples de la terre et naîtra un peuple grand et puissant? C'est de dire que justement, Avraham était un modèle pour la bracha. On peut dire, sois comme Avraham. Alors, le fait de dire que la voix d'Abraham pouvait convenir à tous les peuples de la terre, là aussi, on peut se demander comment c'est possible que la bracha provienne d'un seul homme, comme si en fait tous les comportements humains, toutes les innovations pouvaient venir d'une seule personne. Mais en fait, on répond à cette problématique en disant que justement, Avraham, il a un modèle qui n'en est pas un. Il innove, il est devant Hachem, il devance la parole d'Hachem, il crée une production humaine sur des divrei Torah. Donc il peut convenir, il peut entraîner une bracha à tous les peuples de la terre. Il peut amener une bracha à tout le monde. Parce que justement, il a une faculté, qu'on va dire d'imitation d'un attribut d'Hachem, une faculté d'innovation, de créer sa propre Torah, donc comme si il pouvait être un modèle pour toutes les nations de la terre. Et cette bracha est extraordinaire parce que quand on la regarde de près, on voit que la puissance et la grandeur du clan Israël viennent de cet héritage, viennent de cette parole sur Abraham. Ça voudrait dire que cette tradition d'Abraham d'innover, cette tradition qui n'en est pas une, c'est ça qui va nous permettre de se fonder en tant que peuple grand et puissant sur la terre et qui va même servir de bracha à tous les autres peuples de la terre. Donc c'est une façon d'expliquer que la bracha, Zecher Tzadik Livracha, elle ne porte pas sur le comportement personnel d'Abraham, mais sur le fait qu'il puisse donner la bracha à tous les peuples de la terre. Alors que Noar, ben non. Noar, on nous dit, et les Toldot Noar, et on nous dit, Zecher Tzadik Livracha, Noar était un homme juste dans sa génération, il marchait avec Hachem, il intégrait de l'humain dans le divin, comme on a vu, il conceptualisait les attributs d'Hachem, mais il n'a pas pu servir de modèle à tous les peuples de la terre. Il n'a pas pu, à travers lui, bénir tous les peuples de la terre. Ce n'était pas suffisant, sa droiture n'était pas suffisante pour se généraliser, pour dépasser le cadre personnel de son comportement. Donc c'est peut-être une explication pour dire pourquoi la bracha portait pas sur ses toldot, mais son comportement, sa droiture. Donc ce qu'il laisse en héritage noir, c'est ce en quoi son souvenir est pour nous une bénédiction, c'est son comportement personnel dans une époque très particulière, dans un contexte très particulier, mais qui peut servir de modèle. C'est pas que ça peut pas servir de modèle, mais c'était un comportement personnel dans un contexte très, très particulier où il a gardé, en fait, grâce à la présence d'Hachem, il n'a pas fauté, il n'est pas tombé. Et c'est comme ça que relativement, suivant les commentateurs, relativement à sa génération ou malgré la mauvaise influence qu'il a subie, il est resté un tzaddik, il est resté sans tomber. Donc un modèle qui n'est pas vraiment généralisable. Donc c'est une façon d'expliquer pourquoi la bracha ne porte pas sur les toldot de Noar, mais sur son comportement personnel. Donc là on voit que, pour revenir encore à notre titre, y a-t-il un seul chemin de vie pour tous ? On a déjà, j'allais dire on est sauvé, on a déjà deux chemins de vie différents. Le premier qui est un peu collé au modèle divin, qui est à côté d'Hachem, qui conceptualise les attributs d'Hachem, qui met de l'humain dans le divin, qui a à ce titre un comportement de tzaddik qui est digne de survivre au Maboul, au déluge, mais qui n'est pas digne d'être fondateur d'un peuple et d'une bracha pour tous les peuples de la terre. Et l'autre chemin, l'autre avoda, qui est celle d'Abraham, qui, si on peut parler comme ça, entre guillemets, bien sûr, qui dépasse quelque part un petit peu Hachem, en inventant sa propre voie, sa Torah, son interprétation humaine de la Torah, et qui nous laisse en héritage une bracha incroyable, qui est d'être le peuple grand et puissant sur la terre, et c'est à travers ça que tous les peuples de la terre seront bénis. Voilà pour la première partie sur... y a-t-il un seul chemin de vie pour tous ? J'espère que j'ai été clair. Alors, si on s'intéresse un petit peu maintenant à la question initiale qui était de dire est-ce qu'il y a un seul bonheur pour tous ? Rav Gronstein, dans son introduction au séminaire sur les Hacherets, nous avait dit que, bien évidemment, les approches du bonheur étaient multiples. Pas simplement parce qu'il y a une diversité d'interventions et d'intervenants, cher Rav Moshe, mais parce que la construction même du terme Hacherets semble être un pluriel. Alors il y a beaucoup de conférences qui qui se sont déjà passées. Mais si on pose la question, y a-t-il un seul bonheur pour tous? Il y avait la conférence de Rav David Ayash qui avait ramené une notion d'assurance dans le bonheur. De dire qu'une des façons peut-être d'être acheré, ça serait d'être sûr de mon approche, de ma façon d'avancer, être sûr que je suis bien dans, que je joue bien ma partition, pour parler comme ça. Et il y avait l'intervention de Rix Milevitch sur lequel, si vous voulez bien, j'aimerais juste revenir deux petites minutes, qui s'intéressait à un ashré qui nous intéresse aussi par rapport à notre question. Ashré Adam Mefachet Tamid. Alors, je ne sais pas si vous avez assisté à cette conférence. Mais juste en quelques points, Rix Milevitch était donc intéressé à Ashré Adam Mefaret Tamid, qu'on peut traduire de façon très paradoxale tout de suite en disant « Heureux l'homme qui est toujours dans la crainte ». Donc il avait dit tout de suite comment on peut poser une phrase comme ça. « Heureux celui qui est toujours dans la crainte ». C'est bien évidemment complètement antinomique avec le bonheur. Le bonheur pour tout le monde, c'est d'être, c'est pas d'être dans la crainte, c'est d'être dans la certitude. Et la Gemara continue après en disant « Il sera malheureux ». Non, pardon, le Michelet continue en disant « Il sera malheureux celui qui endurcit son cœur ». Et Rix Milevitch avait s'était centré aussi en disant « Pourquoi ce mot tamid, toujours ?» Et il avait ramené notamment un Rashi qui disait « L'homme qui a une crainte constante du châtiment, il s'écarte de la faute ». C'était le principe, la peur du gendarme que tout le monde connaît. On craint les radars sur le périphérique, on n'accélère pas trop et donc comme ça on ne faute pas. On s'écarte de la faute. C'est la hirat du châtiment. Mais Tamid, il s'était intéressé sur ce mot Tamid qui est très fort, c'est la constance. Donc qu'est-ce que ça veut dire, heureux l'homme qui est toujours dans la crainte? C'est pas possible d'être toujours dans la crainte. En plus, il avait soulevé le problème que dans Michelet, la crainte a très mauvaise presse, puisque quand on parle, la seule fois où on parle de la crainte dans Michelet, on dit que celui qui a la crainte, c'est le fauteur, c'est celui qui faute. Et donc, ce qu'on met en avant plutôt dans les proverbes, c'est notre, dans notre rapport à Hachem, c'est pas la crainte, c'est la bitachon, c'est la confiance. Celui qui est proche d'Hachem, il a confiance en Hachem, il ne vit pas dans la crainte. Et même de poursuivre en disant que la crainte crée un piège pour l'homme. Donc celui qui a confiance en Hachem, il est d'une certaine façon protégé. Et donc il y avait deux types de rapports à Hachem, un rapport de crainte et un rapport de confiance. Et une des interprétations qu'il avait proposées, qui était très intéressante par rapport à notre sujet, c'était de dire que, en fait, donc après bien sûr l'étude de ce Ashrei Adam Mefaret Tamid, c'est une des réponses, c'est que bien évidemment la crainte, elle ne porte pas sur les événements de la vie, elle porte sur les divrei Torah. Et donc, c'est comme pour nous dire qu'on doit cultiver une certaine confiance dans notre rapport à Hachem dans les événements de la vie, de tous les jours. Mais par contre, quand on parle des divrei Torah, on doit avoir une crainte immense. Et Rix Milevitch faisait très très justement remarquer que, malheureusement pas pour nous en tout cas, c'est tout le temps l'inverse. C'est-à-dire on vit dans la crainte perpétuelle quand il s'agit des événements de la vie, on a toujours peur qu'il nous arrive une tuile. Mais par contre, quand il s'agit de Torah, il disait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans une peur immense avant de faire un divrei Torah. Moi, j'avais un peu peur ce soir, mais pour d'autres raisons. Mais il disait que c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait exactement l'inverse de ce Michelet. Ce Michelet nous enjoint à dire, ben, de toute façon, tu sais que le monde a été construit sur la sagesse, donc tu sais que, de toute façon, si tu fais bien tes mitzvot, d'une certaine façon, tu peux avoir confiance en Hachem. Mais par contre, quand tu t'empares de la parole d'Hachem, tu dois être dans la crainte. Et donc Rix Milevitch doit remarquer qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train d'avoir peur dans la vie, comme si on manquait de bitachon dans Hachem, mais par contre quand on fait des divrei Torah, on n'a pas peur. Et là où je voulais en arriver par rapport à ce petit rappel d'Rix Milevitch, c'est que quand on se centre sur ce Ashrei Adam Mefaret Tamid, quand on cherche à le comprendre, et quand on sait qu'il s'applique, cette crainte, elle s'applique au divré Torah, c'est comme pour dire ce qu'on a vu un petit peu par rapport à Zekeli Véanévéou et mettre de l'humain dans le divin, c'est de dire attention, là, tu vas parler de la parole d'Hachem, c'est pas n'importe quoi. C'est pas, contrairement au titre, y a-t-il un seul bonheur pour tous, la recette du bonheur, c'est pas une recette de cuisine. Attention à ce que tu es en train de dire, de faire. Donc là, il y a une crainte qui doit être perpétuelle, qui doit être tamide, qui doit être constante dès qu'on parle de divrei Torah. Et d'une certaine façon, il traduisait ça de façon très, très, très juste, mais en même temps triviale, mais très juste. C'est la peur de dire des bêtises. Quand on parle d'un sujet éminemment aussi important que la Torah d'Hachem, ben, on doit toujours avoir peur de dire des bêtises. Donc, on nous demande de le faire, on nous demande d'avoir cette parole-là, il y a un riouf de mettre de l'humain dans le divin, mais en même temps, on doit avoir peur, on doit vivre ça dans la crainte. Et d'une certaine façon, il concluait son intervention en disant comment on peut après se dire qu'on est hacheré. Ben, si on est hacheré, c'est ce bonheur-là, c'est le bonheur donc, de cette crainte-là, de se dire qu'on est en train de parler de Torah, et donc d'être dans une perpétuelle découverte, d'une perpétuelle remise en question, d'une perpétuelle remise en cause. Le bonheur, d'après ce que Eric Smelievitch disait, dans l'interprétation de ce hacheré Adam Mefaret Tamid, c'est le bonheur de la découverte perpétuelle qui est initiée par cette crainte. Qui est permise par cette remise en question, par cette crainte. Alors, je me suis permis de reprendre juste quelques points de cette conférence. Pour revenir à notre question, y a-t-il un seul chemin de vie pour tous ? En reprenant donc le hacheré qu'avait dit David Ayash, c'est-à-dire la notion d'assurance, comment on peut être heureux en étant sûr de quelque chose, donc en étant sûr, en tout cas par rapport au divrei Torah, de se dire je joue ma partition, je suis en train de m'approprier une parole, donc c'est ma façon d'avancer à moi, ça c'est une façon d'être dans le hocher, cette assurance. Et la question d'Eric Smilevitch sur le Hacheré Adam Mefaret Tamid, celui qu'on traduit par heureux celui qui craint toujours, c'est se dire que je suis dans une production humaine. Donc je crée sur mesure une production humaine sur des divrei Torah. Et comment, on avait parlé tout à l'heure d'un sentiment un peu vertigineux quand on est comme Abraham, en tout cas quand on se dit je passe devant Hachem, je suis sans modèle, j'innove. Là on voudrait proposer en réponse à ce sentiment un peu vertigineux comme un espèce de garde-fou, de se dire, peut-être une des réponses pour vivre cet avoda, c'est Hacheré Adam Mefaret Tamid, c'est-à-dire c'est de vivre ça dans la crainte. Une fois que je me suis assuré que j'avais ma propre production humaine sur les divrei Torah, ce riouf de mettre de l'humain dans le divin, comment je sais, pour reprendre l'expression que je donnais tout à l'heure, si je suis devant, ben, j'ai pas de rétro, est-ce que je suis bien en train de je suis pas hors sujet, je suis bien en train de parler de divrei Torah, ça c'est permis par la crainte. Justement, la crainte me permet de dire attention, je suis en train de dire n'importe quoi, donc même si j'innove, je dois d'abord m'assurer que ma base est solide, conforme au mitzvot, à la halakha, et uniquement après, une fois que je cherche ma partition, je me lance dans une certaine innovation. Mais c'est quand même, ça reste problématique parce que on sait qu'on n'a pas de repère. Donc, pour répondre de façon très précise à la question qu'on a posée, parce que j'y tiens, comment on peut traduire ça humainement dans un comportement d'un homme d'aujourd'hui, puisqu'on sait que pour avoir un certain bonheur il faut avoir un minimum d'assurance, et on nous dit Hacheré Adam Mefaret Tamid, donc ça serait comme si on pouvait dire pour plagier quelqu'un, c'est pas je pense donc je suis, c'est je crains donc je suis dans la crainte donc je suis heureux. C'est une drôle de recette, en tout cas. Et donc, c'est l'idée de dire que le doute, la crainte donc de dire des bêtises, cette peur constante, c'est comme si c'était un passage obligé pour accéder à une certitude. Ça en est le résultat. Et d'une certaine façon, quand on prend en considération la hauteur divine des dix vrais Torah, on lève la tête et on a un certain respect qui est la considération de cette hauteur de parole divine. Et donc la crainte, c'est se remettre en question en se disant à quel titre moi je vais interpréter, je vais prolonger, je vais donner un sens à une parole qui vient d'en haut. Donc cette peur, elle démarre d'abord par le respect divin de la Torah. Alors que, d'une certaine façon, la certitude, ça voudrait dire un peu comme Avraham Avinu, c'est-à-dire je produis moi-même ma Torah, mon modèle, et donc c'est ça qui peut me rendre heureux, c'est parce que c'est ma Torah. Donc ça, c'est l'aspect humain, ça part d'en bas. C'est l'aspect qu'on a vu dans Zekeliv et Anevehu, c'est la certitude qu'il s'agit bien de ma Torah, que je me suis approprié d'une certaine façon la parole d'Hachem. Mais encore une fois, on est obligé de dire que avant de s'approprier et d'avoir cette certitude qu'il s'agit de ma Torah, on doit d'abord avoir la crainte de se dire, avant de dire que c'est ma Torah, est-ce que c'est déjà de la Torah? Est-ce que c'est déjà de la Torah avant de dire ça va devenir ma Torah? Donc s'il peut y avoir une certitude, c'est d'abord de se dire, est-ce qu'il s'agit bien de Torah? Et pour ce faire, on doit avoir Ashrei Adam et Faret Tamid, la crainte, avant de se dire, comme Avraham Avinu, je vais innover et je vais en faire ma Torah. Et c'est une façon de prolonger la réflexion d'Aris Milevitch, de dire qu'en fait le doute, c'est cette crainte, c'est pas paralysant. C'est juste, en fait, c'est un peu rassurant, c'est un passage obligé vers la certitude et donc un passage obligé vers le bonheur. C'est pas comme dire un happy end, mais d'une certaine façon, c'est dire d'abord être dans la crainte de ne pas respecter la parole d'Hachem avant de se dire que on va la faire nôtre, on va la faire sienne. Donc le bonheur ne pourrait être là que dans la mesure où j'aurais respecté ces deux points, j'aurais assumé l'aspect divin des vrais Torah en même temps que mon investissement personnel, l'aspect humain, qu'elle devienne ma Torah, que ce soit dans la voie de la Avoda de Noar, qui est de se dire je suis à côté d'Hachem et je garde un œil tout le temps sur le comportement d'Hachem sans vouloir innover, ou alors la version Abraham qui est de dire je me construis un modèle et je suis devant Hachem d'une certaine façon. Et donc pour conclure, je dirais que la vraie réponse, une fois qu'on a compris cette crainte, c'est d'innover. C'est-à-dire, c'est de se dire, on a une parole d'Hachem, on a un riou de se l'approprier, de mettre de l'humain dedans, que ça soit comme pour embellir les mitzvot ou que ça soit pour être comme Hachem. Et après, derrière, j'allais dire, c'est une page blanche, c'est-à-dire, c'est le modèle à suivre, c'est le modèle, c'est le non-modèle, c'est-à-dire, c'est le modèle d'Abraham. C'est innover, devancer, essayer de faire sienne une parole divine, donc d'avancer avec la certitude qui est fondée sur la crainte, le respect de la parole d'Hachem, en même temps de se dire qu'on peut avancer qu'en étant investi dedans. Et juste pour conclure, quand on avait commencé l'étude de ces textes avec Rav Moshe, il m'était venu à l'esprit un vieux souvenir, une réminiscence de mes cours de philo où on avait étudié un petit peu un texte de Freud qui est Malaise dans la civilisation, et où un des gros arguments de Freud, qui est repris par la psychanalyse, c'est de dire que justement la religion, elle est impropre complètement à satisfaire ou à rendre heureux un homme, puisque de toute façon un homme, d'après la théorie freudienne, c'est fait avec un ça, un surmoi, etc. Et donc chaque homme est unique, a des besoins, a des désirs uniques, et comment une seule réponse stéréotypée pourrait convenir à tout le monde, pourrait donner le bonheur à tout le monde. Et donc Freud y allait avec plusieurs pages en disant qu'il y a un jeu d'adaptation, il y a un jeu de sélection de différentes voies, et la religion porte préjudice à ce jeu qui est éminemment humain, en imposant, d'après Freud, à tout le monde une voie unique pour se prémunir contre la souffrance et pour accéder au bonheur. Et j'avais trouvé que la démarche d'Abraham est une, même si elle est bien, bien, bien antérieure, une excellente réponse à cette idée de Freud. Voilà. Correspondance entre eux. J'avais l'impression que c'était complémentaire puisque la Gemara nous dit
Alors justement, je termine là-dessus parce que il me semblait justement que peut-être que si dans les Midot, le peuple juif, il en a certaines particulières, on dit qu'il a grand Mida de Rachamim, de Trasadim, Baishanim, de Modestie, tout ça. Alors donc, il y a des Midot, on dirait peut-être qu'elles portent plus encore ce développement finalement. Donc je me disais à ce moment-là, ton Hacheré, cacher, c'est une façon de prendre les midot qui donnent le plus de développement finalement du Tétora. Parce qu'on avait vu que hacher c'était aussi une sorte de mise en, enfin de développement de mouvement. Donc il y a un bonheur à la fois dans cette, cette inquiétude, mais dans le travail sur peut-être ce qui donne le plus d'ampleur finalement de, dans le portage que le peuple juif fait des mitzvot hacher. Hacher en rapport avec les midot.
Et c'est une question que moi je voulais qu'on on a pas eu le temps de, le, de l'étudier, mais c'était le rapport avec les 13 midot de voilà, de, est-ce qu'il y a un lien, comme dit Chaim Meir, est-ce qu'il y a des midot qui sont plus particulières, plus je sais pas comment dire, plus particulières au peuple, au clan Israël, ou qui sont plus particulières pour développer une certaine ressemblance avec Hachem, je ne sais pas.
Non, bon, mon problème là, c'est de savoir si elles ont un rapport avec Hachem. Parce que notre séminaire, c'est de mieux comprendre.
Ouais, on, je ne sais pas s'il y aura envie de répondre, moi je ne peux pas répondre, mais.
Ça fait progresser notre définition.
Oui, mais. Oui, je ne sais pas.
J'avais juste une remarque qui m'est donnée quand vous avez cité les deux Gemara, Sota et Shabbat, qui m'ont fait l'autre. Je n'ai pas.
Et visiter les malades.
Tout
à fait.
Et dans le deuxième du Mara Shabbat, c'est plus d'essayer de se construire un modèle.
Exactement.
Pour soi. Mm-hmm. C'est un rapport de soi à soi-même, c'est-à-dire on se construit soi par rapport à soi. C'est-à-dire comment on peut se transformer soi pour trouver une voie vers, vers le bonheur.
Mm-hmm.
Et ce que je trouve intéressant, c'est peut-être que finalement la voie vers le bonheur, c'est peut-être une sorte de dynamique
entre les deux.
La construction qu'on a de soi tout seul, enfin, intérieurement, et le rapport qu'on a avec les autres.
Oui.
Que finalement, bah, cette construction de modèle, même si on prend Noah ou Abraham, faut pas que ça reste, qu'on reste une île séparée du, des autres. Ça peut être un rapport narcissique.
C'est un peu ce qu'on dit par rapport à Noir, c'est un peu, je sais pas, je parle sous le contrôle du Rav, mais c'est un peu le reproche qu'on fait à Noir, c'est, enfin reproche, je sais pas, mais de dire qu'il n'a pas forcément cherché à sauver toute sa génération, qu'il est resté un peu, on va dire, dans les quatre coups de la halakha sur sa teva, et qu'il a pu comme ça sauver le monde, mais qu'il n'a pas été capable de enfin, il a pu sauver le monde. Non, il a pu reconstruire le monde après sa destruction, mais il n'a pas pu sauver le monde. Donc, il est resté un petit peu centré, on va dire, sur sa tzidkout. Alors qu'Avraham Avinu, au contraire, bien évidemment, quand on parle d'Avraham, on parle toujours de son chesed, de son hospitalité extraordinaire, de la façon dont il a converti, donc il était sans arrêt tourné vers les autres. Donc, bien évidemment, c'est deux attitudes complètement, complètement différentes. On n'a pas pu s'empêcher, j'ai pas pu m'empêcher de laisser transparaître que pour nous, le modèle d'Avraham, c'est le modèle du clan Israël, dans la mesure où il a permis justement la bracha à tous les peuples de la terre, il a permis de constituer le clan Israël. Le modèle de Noar, même si on peut parfaitement se dire qu'on serait, on pourrait le suivre, c'est pas un modèle qui est, c'est pas un modèle qui est plus. C'est un modèle de tenue personnelle dans un environnement, on va dire, extrêmement hostile. Mais ce n'est pas un modèle qui permet de transcender, d'aller vers les autres et de transformer le monde quelque part. Ça permet juste de faire en sorte que le monde ne, ne finisse pas, ne soit pas, voilà, de continuer après, mais ça ne permet pas de transformer le monde. Tu annonces la prochaine séance? Tu annonces la prochaine?
Je peux
annoncer
la prochaine séance.
S'il te plaît.
Je peux le faire.
Sauf s'il y a des questions, mais. Tu t'embelliras par la mitzvah, oui.
Tu t'embellis par le biais des mitzvot. C'est-à-dire, en fait, l'homme s'embellit en faisant certains actes. Et maintenant, pour que quelque chose, qu'il ajoute quelque chose aux actes qui sont prescrits, il s'embellit dans la mesure où ces actes-là, il le rajoute du naé. C'est toujours le même point. Toujours Talit naé, Tzitzit naé, Lulav naé.
veut rien dire, évidemment, sur Hachem. Ça ne veut dire que ce qu'on en fait ici. C'est-à-dire, toi, tu dois le faire, et je te dis que c'est très bien. C'est le mieux que l'homme puisse faire. Parce que là, ça s'appelle l'unité Hachem, mais ça ne veut pas dire que Hachem fait ces choses-là complètement. Comme si on pouvait dire ce qu'Hachem fait. Simplement, c'est dit pour l'homme. Nous sachions devoir faire. Mais là, il faut inventer. Cette deuxième lecture, il y a du chidouche. Dans la beauté, c'est pas du chidouche sur la mitzvah. Il n'y a pas de chidouche possible. On va lire, c'est pas du chidouche. Un peu de soukage, une langue, une langue, ça va toucher ton roulable, etc. Ça sera un beau roulable. Pas de chidouche là-dedans. La place du chidouche, elle est seulement dans la deuxième lecture où on te dit, mais là on nous dit spécifiquement, etc. Mais ça veut dire, tu dois te transformer. Tu dois te construire, et à toi à savoir comment te construire. Ça veut dire, on va bien au-delà des mitzvot. Les mitzvot, c'est un premier étage, mais ensuite, ce qui est réellement demandé, ce qui est vraiment le chidouche, c'est le chidouche de soi-même, bon, qui implique un chidouche dans la lecture de la Torah. Comment est-ce que je vais déduire c'est, il va falloir, puisque je m'appuie sur ce qui n'est pas dit explicitement dans la Torah. Et c'est ça l'ouverture, la place qui est laissée pour les Machamim. Alors voilà, les Machamim vont ouvrir et ils vont développer la Torah. Bon, ils vont aller plus loin. Alors, effectivement, là, on a besoin de cette crainte. penser, ne plus pouvoir penser autrement que quelque chose qui soit, enfin, ne plus pouvoir penser quelque chose qui serait contraire à la Torah. On raconte cette fameuse anecdote de Ephraim de Brest qui, un jour, il a dit quelque chose, il a dit qu'il douche, et on lui a objecté que, quand on soit, on est exactement le contraire, soit au contraire de ce qu'il a. Alors, il a pleuré. Pas grave, ça arrive à tout le monde, d'oublier un peu, soit
parlera du moment grec jusqu'à Jean-Jacques Rousseau sur l'idée qu'il traite sur l'impossibilité du bonheur.